Radio-Télévision Suisse.
RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. C'est votre émission, votre grand voyage culturel qui vous emmène aujourd'hui au Vietnam, en Afrique subsaharienne, au Maroc et en France. C'est une bande dessinée exceptionnelle, un roman graphique sur la découverte du Vietnam et la découverte de soi. Lolita Séchant propose un récit sensible et émouvant, une vraie révélation. Cette semaine, nous vous offrons un son du monde grand format, notre séquence consacrée à la découverte du monde en images, en textes et en musique. Nous irons en Afrique avec un livre de photos sur l'Afrique noire des explorateurs et à Tanger avec deux jeunes cyclistes qui font le tour du monde à la rencontre des libraires francophone. Et puis nous serons avec Serge Joncourt. Son nouveau roman parle d'amour entre le monde urbain désaxé et le monde rural devenu refuge. Un texte fort qui interroge sur notre relation à l'autre.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et quatre libraires sont en multiplex comme chaque semaine à travers la francophonie. On accueille un nouveau libraire suisse cette semaine. Anne-Françoise Corr est directrice de la librairie Page 2016 à Payerne dans le canton de Vaud. Bonjour Anne-Françoise.
Bonjour Emmanuel.
Soyez la bienvenue dans la librairie francophone. Où se situe votre librairie exactement? Qu'est-ce qu'il y a autour de vous par exemple?
Alors juste en face de l'entrée de la librairie, il y a un café qui s'appelle le Café de l'Aviation.
Oui.
Et puis quand je me penche un peu par une fenêtre, je vois le canal de la Broye, qui est une rivière. Et puis quand je me penche par une autre fenêtre, je vois l'abbatiale.
Très bien. Bon, voilà.
Donc c'est une ville d'histoire aussi.
Une ville d'histoire propice au voyage pour le coup. Avec le Café de l'Aviation, tout va bien.
Tout va bien.
Très bien, on vous retrouvera tout au long de l'émission. Merci d'être avec nous. Déborah Damblon représente la Belgique. Elle est à Bruxelles dans la librairie La Licorne. Habituée, fidèle, tout ce qu'on veut. Bonjour Déborah.
Bonjour Emmanuel.
Tout va bien pour vous?
Ah oui, fidèle.
Très bien,
oui,
c'est fidèle. Il est tatoué partout, c'est le rebelle de la bande, biker dans l'âme, mais très littéraire quand même, même si certains bikers sont littéraires. Bonjour Mathieu Colombe.
Belle description, bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire dans le sud de la France, à Aix-en-Provence, dans la librairie Goulard.
Exactement.
Et on vous demandera pas d'enlever votre t-shirt. Merci oui. Mathieu. Au Canada, on retrouve Billy Robinson, libraire à Montréal, dans la librairie de Verdun. Bonjour Billy.
Bonjour Emmanuel.
Quelle est l'ambiance du quartier où se situe votre librairie, vous?
En fait, c'est ce qu'on appelle le festival des cônes oranges. Alors, il y a beaucoup de constructions aux alentours à Montréal. Donc, c'est ça qu'on voit beaucoup.
Montréal en travaux, encore une fois, oui, tout le temps, et souvent. Oui. Ouais, c'est vrai qu'on a du mal à circuler à Montréal depuis quelques temps. Merci d'être avec nous tous les quatre. Je vous le disais la semaine dernière, Leïla Slimani et Régis Geoffrey étaient nos choix pour le prix Goncourt. C'est Leïla Slimani qui a décroché le Graal jeudi. On la félicite et vous pouvez retrouver l'intégralité de son entretien dans la librairie francophone en podcast sur notre site internet. Bonjour Serge Joncourt.
Eh ben bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien.
Une réaction à ce prix Goncourt?
C'est un beau roman en tout cas.
Oui.
Ça, c'est quand même important qu'on s'en réfère au prix par rapport au roman.
Oui,
c'est un roman un peu acide hein, quand
oui,
même.
Oui, exact.
Tout n'est pas rose, loin de là. C'est un roman habile parce qu'il commence par sa fin. C'est un beau procédé qui nous met du coup dans une position un peu étrange parce qu'on lit un roman tout en sachant ce qui va advenir à la fin. Et moi, je suis assez partisan de ça. C'est pas la peine de toujours cacher la fin. Parfois, c'est plus excitant de savoir quelle est la fin pour savoir comment on va y arriver.
Exactement. C'est un bon roman donc de Leïla Slimani, franco-marocaine, et nous partirons d'ailleurs au Maroc tout à l'heure. Le prix Renaudot, vous étiez dans la liste du prix Renaudot, les premières listes.
J'y fume.
Vous y fûtes. Et c'est Yasmina Reza qui a décroché le Renaudot cette année. On parlera de votre nouveau roman, Serge, Repose-toi sur moi, tout à l'heure. On commence toujours cette émission par une histoire, une anecdote étonnante racontée par l'un de nos invités. Vous avez carte blanche. Serge.
Oui, non, c'est anecdotique. J'avais écrit un roman, L'Idole, sur la célébrité. C'est-à-dire, c'était le personnage qui était célèbre. Il ne savait pas pourquoi et personne ne savait pourquoi. Ce roman est devenu un film de Xavier Giannoli, avec Cécile de France et Cadmerade, qui a été projeté en compétition à Venise, à la Mostra de Venise. Et alors, la petite astuce, c'était un des premiers films projetés. La production m'a dit, écoute, nous, on va par là. Toi, prends cette voiture, j'imaginais, pour aller vers une porte dérobée. Et finalement, ils m'ont mis dans une limousine. Je me doutais bien que la limousine, c'est quand même étrange. Qui m'a déposé devant les marches du palais du cinéma. Et je me suis retrouvé dans la situation de mon personnage. C'est-à-dire qu'avec 300 journalistes venant de partout, des milliers de personnes prêtes à hurler le nom de Cécile de France, et qui découvrent un type parfait inconnu.
Bon, quand même, non.
C'était, si, totalement. Bon, et moi-même, je n'avais pas vu venir la blague. Oui. C'était assez drôle.
C'était une blague ou c'était une erreur?
C'était une blague.
Ah, c'était une blague.
C'était une blague. C'était une forme de ce qu'on appellerait la mise en abîme du personnage, de l'auteur qui devient le personnage. Un souvenir fort.
Hein. Souvenir fort, oui, ouais. J'imagine. Vous avez renouvelé l'expérience, un tapis rouge, tout ça?
Non, c'est compliqué. Mais déjà, il faut écrire un film, il faut qu'il soit projeté. Alors, pas simple.
Serge Joncourt est dans la librairie francophone cette semaine. Bonjour Lolita Séchant.
Bonjour.
Soyez la bienvenue dans cette émission. Votre livre est magnifique, sublime, passionnant. On verra si les libraires sont d'accord avec moi tout à l'heure. C'est un roman graphique ou une grosse BD, comme vous préférez. On part au Vietnam avec vous. Pays où vous êtes allé souvent, car vous racontez votre histoire. La première fois, vous aviez 22 ans. Et c'était une réaction, une forme de léthargie qui vous empêchait d'avancer.
Oui, c'était une fuite. J'ai souvent fonctionné comme ça, en fuyant. Et en me trouvant par hasard à mi-chemin, en fait, enfin, sur le chemin. Et voilà, ça fait 14 ans que j'y vais.
Ah oui, 14 ans déjà.
Et que je continue à cavaler.
Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez trop couvé, trop entouré, trop embourgeoisé à l'époque, quand vous étiez jeune?
Quand même, on va pas parler de bourgeoisie.
Vous êtes toujours jeune,
il y a 14 ans. Non, pitié. Ouais. Non, peut-être très couvé, oui. Dans une famille très fusionnelle, une trinité, ouais. Papa, maman, enfant. Et j'avais besoin d'aller m'expatrier, je crois, changer de territoire. Pour savoir un peu plus qui j'étais, toute seule.
Alors vous décrivez du coup l'esthétique de la ville de Saïgon, nommée aujourd'hui Ho Chi Minh Ville. Vous racontez l'histoire du pays avec une petite erreur au passage. Hein. Il n'y a pas 100 ans de domination chinoise, mais 400, voire 1000 si on compte les trois périodes.
Oh là là.
C'est un détail. Et lorsque vous...
C'est horrible, faites réimprimer.
Faites réimprimer. Et à un moment, vous arrivez dans la rue, dans cette rue d'Ho Chi Minh Ville. On a ces sons de rue que vous avez vécu, hein, ce sont vraiment les sons que vous entendez captés dans les rues de la ville. Et vous êtes frappé par le rythme de la circulation avec ces klaxons, ces voitures qui passent, ces habitants comme ça qui circulent très rapidement. Ça vous effraie?
C'est effrayant au début, puis en fait, dès qu'on commence à attraper à choper le rythme, en fait, on arrive à s'adapter. Et c'est ça que j'aime bien, en fait, moi, être toujours en situation où je connais pas les codes, je connais pas la culture, ou voilà, même juste le rythme d'une ville, et tout d'un coup, essayer de me mettre sur le même tempo. Et là-bas, c'est au début très perturbant. Et puis au bout d'un moment, on apprend à traverser sans mourir.
Oui, alors vous décrivez, il y a des techniques pour ça.
Ah oui, en fait, c'est vraiment comme presque un duel de cow-boy. Ouais. Parce qu'il faut regarder les gens dans les yeux. Parce qu'il ne faut pas attendre qu'ils s'arrêtent, ils ne vont pas s'arrêter. Donc de toute façon, il faut foncer. Et puis les gens arrivent face à nous et pas quitter du regard. Sinon, on se prend vraiment un scooter ou une voiture maintenant.
Mais... Alors vous apprenez plein de choses. Hein. Au Vietnam, par exemple, quand on vous aime bien, on vous tape dans le dos. Ça vous a surpris aussi?
C'est des résistants, des increvables en fait, les Vietnamiens. Et ça, de génération en génération, ça se transmet. Il y a cette espèce de culture un peu brute où vraiment, quand on vous aime bien, hop, on vous donne une bonne tape.
Il y a des traditions aussi pour touristes qui vous plaisent, comme libérer un oiseau d'une cage et faire un vœu. Alors ça, c'est une grosse arnaque en fait.
Moi, j'ai mis 10 ans à m'en rendre compte en fait. J'y croyais vraiment. Je suis très, en fait, je suis pas du tout religieuse, mais je suis un peu mystique quand même, donc j'aime bien croire en plein de choses. Et là, j'avais cet oiseau et j'étais sûre qu'il partait très loin et que je libérais un petit moineau avec mon vœu qui allait forcément se réaliser. Et bien sûr, je veux pas dire la fin du bouquin, mais quand même, 10 ans plus tard, j'ai appris qu'ils étaient dressés à revenir.
Donc... Oui, bah, c'est pas la fin du bouquin, c'est une anecdote.
Mais c'était vraiment à l'image du pays en même temps.
C'est-à-dire que les oiseaux, on les libère, on donne un dollar, voire deux, voire trois. Ça dépend comment on se fait arnaquer. Et l'oiseau part. Alors, on a l'impression qu'on a libéré un oiseau, sauf qu'il est dressé pour revenir. L'oiseau est complètement abruti, en fait.
Il paraît que c'est hyper facile.
Oui. De quoi, de les dresser?
Oui.
Ah oui, bah, écoutez. Ouais. Et puis, à un moment, vous arrivez à Sapa. Sur ces voix d'enfant à Sapa.
D'où ça vient, ça?
Ça vient, c'est nos archives, notre boîte à son. Ouais, c'est ce que vous avez connu.
Ah oui.
Et vous rencontrez une jeune fille là-bas.
Oui, une petite fille en fait.
Qui a
12 ans.
Oui. Et il y a un lien très fort, et c'est là toute l'histoire de votre livre. C'est que cette petite fille-là, elle va vous accompagner dans votre esprit pendant ces 10 années. Vous allez y retourner, vous allez la voir grandir. Il y a un lien très fort qui se noue avec elle. Comment vous l'expliquez, ça?
En fait, je l'expliquais pas vraiment jusqu'à maintenant, dans la promotion de l'album, en fait. C'est que j'ai fait cette BD de manière assez inconsciente. Moi, le lien que j'ai eu avec elle, ça a été un plus elle m'a touchée parce qu'elle était toute petite et qu'elle assistait au changement d'un pays très radical et très violent. C'est un pays qui va à toute vitesse. Elle venait d'une culture traditionnelle et elle avait ce regard assez lucide porté sur les évolutions et les changements du Vietnam. Ça m'a touchée, ça m'a bouleversée. Et en fait, j'ai pensé à elle pendant 2 ans et je suis retournée et je l'ai retrouvée au bout de 5 jours et elle ne se souvenait pas de moi.
Ouais,
à partir de là, j'ai voulu qu'on ait une amitié et j'ai jamais su si c'était parce que ça a été comme une petite sœur ou un petit prophète, j'en sais rien. Résultat, ça fait 15 ans. Et...
Et il y a des points communs avec elle dès le début, avec vos pères respectifs, par exemple. Vous apprenez, par exemple, avec beaucoup de troubles que votre papa va avoir un deuxième enfant. Et vous décrivez de façon très pudique sa dépression aussi à un moment. Vous le dessinez de dos dans une clinique spécialisée. Et vous dites, on est comme E.T. et sa plante, tous les deux. Quand l'un ne va pas, l'autre se fane.
Ça, c'est les références des enfants des années 80. Ouais. Hein, mais c'est vrai, non, mais j'ai toujours eu cette image en tête avant même de faire cet album. C'est peut-être le propre des familles fusionnelles, j'en sais rien. Il y a un cordon qui passe de membre en membre et de membre de la famille, je précise. Mmh. Et qui, voilà, on est connectés. Mmh. Donc il faut apprendre à peut-être couper le lien pour mieux le vivre.
Et on vous doit quand même, Lolita Séchant, l'une des plus belles chansons du répertoire de la chanson française.
C'est pas grâce à moi.
Morgane de toi.
C'est grâce à lui.
Vous l'aimez bien cette chanson ou elle a été envahissante pour vous?
Ah non, rien n'est envahissant.
Rien.
Vraiment. Non, pas du tout, parce que j'adore
bien
ce qu'il fait.
Vécu, même quand vous étiez enfant?
Bah oui, parce qu'enfant, c'était enfin comme, je sais pas, n'importe quel parent qui fabriquerait quelque chose pour son enfant. Donc, c'est aujourd'hui que j'en prends conscience. C'est il y a 2 semaines au Zénith, tout d'un coup, j'ai des flashs et je me dis, mais c'est quand même très étrange d'avoir 6000 personnes qui crient « je t'aime » en fait.
Votre papa c'est Renaud, hein, c'est le chanteur Renaud.
Exactement.
Voilà, on l'a pas dit. On va aller voir les libraires qui ont lu votre livre, Lolita Séchant. Canada ou Suisse, on commence par qui?
Canada.
Canada, allons-y, Billy Robinson.
Ah ben écoutez, c'est un honneur parce que c'est vraiment un beau roman graphique ou une grosse BD comme vous dites. Alors j'ai été soufflé là, par cette belle quête initiatique dans laquelle vous plongez là, presque en apnée. Alors croyez-moi, là, cette œuvre colossale est remplie de magnifiques passages. On y voit tout le travail minutieux et sensible que la jeune femme nous offre. Alors assurément, dans l'air du temps, ici comme ailleurs, je crois vraiment là, que cette histoire saura plaire à un large public. Les jeunes y trouveront une quête inspirante et les moins jeunes trouveront une certaine résonance nostalgique.
Anne-Françoise Corr, en Suisse, êtes-vous d'accord?
Moi, j'ai beaucoup aimé l'histoire de ce voyage initiatique qui était raconté au travers d'un texte juste et minimaliste. Mais c'est surtout l'illustration en noir et blanc, très picturale, dense et fort belle, avec cette multitude de petits traits, si serrés parfois, qui m'ont permis de partager cette fuite, cet exil volontaire menant Lolita à la découverte d'elle-même.
Avant d'aller en Belgique et en France, Lolita Séchant, on va retourner au Canada. Ouvrons la porte du Canada.
Vous allez me faire chialer.
Comment?
Vous allez me faire chialer.
Ah oui, à ce point-là?
Ah bah, les mongues et les...
Bah, c'est pas triste comme chanson.
Non, mais c'est des souvenirs.
Marjo. Hein, la chanteuse Marjo qui chante Illégal.
Oui.
Au moment où vous partez à Montréal, vous y vivez quelque temps pour vos études. Après ce premier voyage au Vietnam, vous participez à des fêtes avec cette chanson, donc Illégal, que vous écoutez à fond pendant les soirées. Vous souffrez du froid là-bas, vous souffrez des soupers à 17h et vous semblez être plus déraciné à Montréal qu'au Vietnam.
Ah oui, mais ça, je ne sais pas comment ça s'explique. Parfois, on a un pays dans le sang et c'est, voilà, c'est, je ne sais pas d'où ça vient. Mais je souffre du froid, je suis frileuse, mais je me suis tellement épanouie à Montréal.
C'est, ouais, ah oui, quand même.
Il n'y a qu'un endroit dans le monde où je pourrais vivre ailleurs que Paris, c'est Montréal.
Ouais.
Donc.
Qu'est-ce qui vous a apporté le Québec au final?
L'épanouissement, enfin l'émancipation de ma famille. Vraiment, je me suis arrachée de ma famille. Après le voyage au Vietnam, c'est là-bas que je suis allée faire des études et c'est là qu'on a publié mon premier roman. Et c'était hors... ombre familiale, entre guillemets, parce que c'était un prof qui savait pas à qui j'étais et qui m'a donné ma chance et ça m'a...
Il vous a fait confiance pour la première fois?
Ouais.
Ouais. Première publication à Montréal.
Première publication, ouais.
Lolita Séchant, vous écrivez « Je rencontre un mec cool, mon premier roman va être publié, j'aurai bientôt un petit frère, mais au lieu de me réjouir de tout ça, je fuis au Vietnam pour libérer un piaf et courir après une petite fille que je connais à peine. »
Oui, je suis pas une grande optimiste. Enfin, je crois, en fait. C'est-à-dire que là, tout devrait aller bien et je suis pleine de crises d'hypochondrie. Je suis sûre que je vais mourir d'une crise cardiaque en ce moment même. Oui. Donc,
Ah, vous êtes hypochondriaque, vous?
Ah oui, très, très. Ouais.
Moi, je connais ça, j'en connais. Déborah, pour la Belgique, que voulez-vous dire à Lolita Séchant?
Alors, moi, j'ai envie de lui dire fin, doux, délicat, honnête aussi, parce que c'est en vrac les mots qui me viennent à l'esprit quand je pense à votre récit. Parce que, bien sûr, vous m'avez fait voyager beaucoup dans l'espace et j'ai adoré ça, mais très très fort dans les sentiments. Et Dieu sait si j'ai aimé vos descriptions de voyage, mais c'est vraiment quand vous parlez de vous, que vous parlez de vos doutes, que vous parlez de vos hésitations que je vous préfère.
Mathieu pour la France.
Bon, évidemment, je rejoins mes camarades. Hein. J'ai énormément aimé la sensibilité qui se dégage de cette grosse BD. ce qui est quand même très notable, c'est que quand vous parlez de vous, vous parlez des autres, en fait. Ça vous arrive à décrire, en fait, à travers ce qui vous arrive, tout un univers qui n'est pas vous. En plus, il y a ce double obsédant qui vous poursuit, qui est quand même très tangible, qui va déterminer votre vie de femme, ce que vous allez en faire, et surtout la poésie de votre bande dessinée qui est soulignée par votre trait, qui parfois est un petit peu hésitant, mais qui est capable d'une telle finesse que ça en devient magnifique.
Vous faites l'unanimité auprès de ma libraire.
Je vais pleurer.
Non, pas encore. Attendez, c'est pas fini. J'ai encore une chose à vous faire écouter. Bah tiens, le son du marché de Sapa. Vous vous souvenez du son de marché de Sapa? Elle est très émue, Lolita Séchant.
Oui, non, c'est fou.
Vous la voyez grandir, hein, cette petite fille gomme. Elle fait partie de ceux que l'on appelle les minorités. Et c'est très difficile pour les minorités au Vietnam, parce que quand elles vont dans des grandes villes comme Ho Chi Minh-ville ou comme Hanoï, elles sont très mal considérées. Expliquez-nous.
En fait, c'est bon, au Vietnam, il y a majoritairement des Kin qui sont les Vietnamiens, et il y a 53 ou 54 minorités. Voilà, ils ont tous une culture différente, un artisanat différent. Et ce qui s'est passé, c'est que les Hmong étaient nomades, donc vivaient dans les forêts à la frontière de la Chine, et donc ont servi pendant la guerre du Vietnam aux Américains d'indique contre les Vietnamiens. Et donc les Vietnamiens, la guerre finie, leur ont fait payer en fait. Donc ça a des conséquences. Voilà, il y a 14 ans, ils n'avaient pas accès ni à un hôpital, ni à l'éducation, ni
la scolarité, voilà. Tout ça. Ouais.
Bon, les choses changent, évidemment. Les Vietnamiens les acceptent un peu plus qu'avant, mais ça reste encore compliqué.
Alors, malgré tout ça, malgré vos expériences au Vietnam, Lolita Séchant, vous avez un mal-être persistant. Même lorsque votre compagnon vous demande en mariage, il y a cette peur, la peur de vous tromper, la peur de vous engager, et vous vous perdez. Alors, c'est très émouvant, ce passage-là, parce qu'à 25-30 ans, quand on se perd, c'est une grande injustice, finalement. Et puis, il y a cette douleur presque insurmontable. Comment vous en êtes sortie, vous, de cette perdition, de cette douleur?
Je ne sais pas si j'en sors. Je pense que c'est, voilà, faut accepter notre nature. Donc peut-être que voilà, j'apprends à vivre avec. Et j'ai surtout compris un peu plus qui j'étais, peut-être à travers cette BD, justement. J'ai compris que j'étais lente et anxieuse et qu'il fallait juste que j'apprenne à vivre les choses comme ça, en les supportant un peu mieux.
Oui. Vous écrivez vers la fin du livre « Nous vivons tous dans une cage, celle de notre histoire, de notre pays, de notre famille. Parfois, nous nous échappons pour 3 minutes d'envol. Et ces 3 minutes de fausse liberté sont plus précieuses que tout. Ces instants volés entre l'enfance et l'âge adulte, entre ici et ailleurs. À peine quelques battements d'ailes dans un ciel anonyme ou dans les brumes de Sapa. »
Ça, c'est le premier texte que j'ai écrit avant même de commencer la BD.
Ah oui?
Oui. Moi, enfin, ça me touche ce que vous avez dit, justement, parce que je fais ça que, enfin, je parle de moi parce que je sais pas parler d'autre chose, mais je ne fais ça que pour parler des autres, en fait. Enfin, il y a que le lien à l'autre qui m'intéresse. Donc, c'est ça, c'est cette espèce d'échappée qui est possible. Alors, moi, j'ai peut-être une cage dorée, mais je sais qu'il y a des gens qui vivent dans des cages pourries, rouillées. Et moi, tout ce qui m'intéresse, c'est d'aller communiquer avec les autres.
Et vous les prenez parfois, ces 3 minutes-là? Souvent?
Oui. Bah, j'ai appris en fait à les prendre à l'étranger parce que c'est beaucoup plus facile d'aller vers l'autre quand on est loin et qu'il est exotique. Et maintenant, j'essaye de garder ce regard-là au quotidien, au coin de ma rue, à Paris ou
ailleurs.
Voilà.
Bon, vous restez avec nous. Merci beaucoup, Lolita Séchant. Merci, c'était un grand plaisir. Les Brumes de Sapa est publié aux éditions Delcourt. C'est tout simplement la meilleure BD de cette rentrée. Félicitations, Lolita. Merci beaucoup. Dans quelques instants, le son du monde grand format avec un livre inédit de photographies africaines anciennes et cap sur le Maroc avec le projet Cyclopédie et 2 cyclistes qui font le tour du monde des librairies francophones. Avant cela, voici le tube de la semaine avec le chanteur canadien Zachary Richard et un titre que vous allez tous reconnaître.
Travailler, c'est trop dur. Et voler, c'est pas beau. Mon est la charité, c'est que je peux pas faire. Chaque jour, comment je vis, on demande comment je vis. Je dis que je vis sur l'amour, et j'espère de vivre. Moi, je prends mon violon, et j'attrape mon archer. Et je joue ma vieille valse pour faire mes amis danser. Vous connaissez mes chers amis, la vie est bien, bien trop courte pour se faire des misères. Allons danser ce soir. Travailler c'est trop dur et voler c'est pas beau. Monde et la charité, c'est quelque chose pour papa. Chaque jour, comment je vis, on demande comment je vis. Je dis que je vis sur l'amour et j'espère de vivre. Chanter dans le whisky bar. Et des fois tu connais, j'aimerais lâcher puis m'en aller. Mais je suis revenu ce soir pour le plaisir de chanter. Travailler c'est trop dur et voler c'est pas beau. Mon est la charité, c'est que George ne peut pas faire. Chaque jour
l'Acadien Zachary Richard. Travailler c'est trop dur sur votre radio francophone, titre repris par de nombreux artistes, mais la version originale c'est celle-ci, elle est canadienne.
La librairie francophone, une émission coproduite par les radios francophones publiques.
RTS la première.
RTBF la première.
Ici Radio-Canada première.
France Inter.
Toutes les semaines, nous vous emmenons dans la plus grande librairie du monde, un lieu virtuel avec des libraires, coup de gueule ou coup de cœur. C'est le principe cette année. On commence dans le rayon des bandes dessinées, enfin on reste dans le rayon des bandes dessinées. Après Lolita Séchant, c'est le libraire français Mathieu Colombe qui nous parle de BD. Coup de gueule ou coup de cœur ?
Alors, coup de gueule.
Coup de gueule.
Coup de gueule. On va parler de Totalitaire, qui est le tome 2 de La Présidente. Alors, pour un peu cerner le truc, donc La Présidente tome 1, c'était une politique fiction qui racontait l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen. Il y avait un parti pris graphique qui était assez intéressant, qui avait été pris dans cette bande dessinée. Et donc, quelque part, j'attendais quand même un petit peu la sortie du tome 2, parce que j'étais assez intéressé. Justement, ce parti pris graphique était intéressant. Alors, premier constat déjà, ils ont essayé de refaire la même chose. Le problème, c'est que là, graphiquement, ça marche plus. Il y a quelque chose qui a été, je pense, raté graphiquement. Et j'ai un problème avec le scénario, parce que là, pour le coup, ils sont arrivés à rentrer dans tous les écueils dans lesquels ils n'étaient pas rentrés dans le tome 1. Voilà, ce bon. Tome 2, c'est une terrible déception.
Très bien. Bon, bah vous avez aimé Lolita Séchant, c'est déjà bien.
Oui.
Il ne faut pas lire donc ce livre-là, La Présidente, volume 2, aux éditions Les Arènes.
En tous les cas, il faut se faire son idée.
Très bien, merci Mathieu. Dans la catégorie des romans, on part en Suisse avec Anne-Françoise Corr.
Cette semaine, Emmanuel, moi je vais vous présenter un coup de cœur, le dernier roman de l'auteure suisse romande Jeannine Massard, qui s'intitule « Question d'honneur » et qui a été publié par les éditions Bernard Campiche. C'est le récit d'un infanticide commis par une famille bourgeoise dans un village de la côte vaudoise à la fin des années 40. J'ai trouvé ce livre remarquable, car il met des mots justes sur un terrible secret de famille, Ce texte, en forme de conte initiatique, dénonce la condition de la femme, en Pays de Vaud dans les années 50, son manque total de liberté et sa soumission absolue aux règles dictées par l'Église, l'État et la famille patriarcale.
Question d'honneur de Jeannine Massard, c'est aux éditions Bernard Campiche. Merci Anne-Françoise.
La librairie francophone, Emmanuel Quérade.
Une fois par mois, un son du monde grand format avec deux séquences. La première concerne un projet qui se déroule tout au long de l'année avec le projet Cyclopédie. Deux jeunes cyclistes font le tour du monde à la rencontre des libraires francophones. Bonjour Charlélie Le Canu.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Comment allez-vous Charlélie? Alors vous faites le tour du monde hein, en ce moment, on vous suit une fois par mois, vous nous faites découvrir des libraires francophones disséminés sur les cinq continents. Après l'Espagne, vous avez fait une escale au Maroc, comment se passe votre périple Charlélie?
Eh bien écoutez, jusqu'ici tout va encore bien, comme vous venez de le dire, on a traversé l'Espagne de la Catalogne à l'Andalousie, donc avec une traversée spatiale et culturelle vers la culture arabe qui a débouché donc à Tarifa, qui est le point le plus méridionale de l'Europe, et pour arriver donc à Tanger, la ville où on a rencontré Stéphanie, et surtout au Maroc, et longer l'Atlantique jusqu'à Casablanca à vélo.
Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué depuis que vous êtes parti, Charlélie? Parce que vous êtes plutôt bien accueilli par les libraires, hein, d'après ce que je vois, vous êtes suivi sur les réseaux sociaux, et puis ça se passe bien, c'est bonne ambiance, comme on dit.
Ouais, on a la chance à chaque fois de tomber sur des personnes formidables. Et c'est les rencontres qui font la beauté du voyage. Et en moment marquant, je peux vous citer une belle rencontre qu'on a faite à Saragosse, le soir vers 23h, et où on a constaté une crevaison. Et donc là, on a dû sortir tous les outils en plein milieu de la rue à 23h, alors qu'on n'avait pas d'endroit où dormir, essayer de réparer la roue, on galérait un peu. Et là, un type s'arrête, nous propose son aide, et il s'avérait que c'était un cyclotouriste qui rentrait lui-même du Kurdistan irakien à vélo, qui a fait le monde entier à vélo, qui nous a aidé à réparer, qui nous a accueillis chez lui, qui nous a fait visiter la ville de Saragosse pendant un week-end.
Ouais, vous arrivez à trouver des personnes comme vous qui font le tour du monde. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui font le tour du monde en vélo, en tout cas qui font des grands parcours comme ça. Alors sur la route, vous avez rencontré Stéphanie Gaou à Tanger. Elle est libraire dans la librairie Les Insolites et elle est très impliquée dans le développement de l'art et de la francophonie au Maroc. Sa librairie provoque des rencontres et des échanges au cœur de Tanger. Vous avez recueilli son impression.
Il m'arrive de dire en plaisantant que c'est une épicerie en fait pour moi. C'est-à-dire qu'on vient y piocher comme chez l'épicier quelque chose. Et de mon côté, il ne doit pas y avoir de jugement, il doit y avoir l'envie d'ouvrir des portes pour des personnes qui savent mais ne savent pas qu'elles savent ou qui ne savent pas du tout et qui ont envie de découvrir. On cultive deux choses à la fois dans cet espace. La porte est toujours ouverte, donc c'est ouvert à tout le monde. Mais ce ouvert à tout le monde, c'est presque ouvert aux audacieux. Si quelqu'un n'est pas audacieux, je n'irai pas le chercher en fait. Je ne vais pas supplier une personne d'entrer dans la librairie. Donc il y a des choix qui se font un peu envers et contre ça. J'ai des personnes qui adorent pendant un certain temps, qui adhèrent au lieu et puis il peut arriver de les décevoir. Donc je ne vais plus les voir pendant un certain temps. Puis ces personnes vont revenir. Donc il y a un côté cabinet de curiosité, il y a un côté cabinet de psychologie, il y a un côté confessionnat. Enfin voilà, il y a un peu tout ça. Et je défends ça.
Stéphanie Gaou, donc libraire dans la librairie francophone Les Insolites à Tanger. Après le Maroc, quelle sera la prochaine étape, Charlélie?
Donc là, on vient d'arriver à Dakar. Et on va relier Abidjan en traversant la Casamance, la Guinée et la Côte d'Ivoire, puis longer la côte jusqu'à Cotonou.
Voilà, d'accord.
Où on espère être à Noël.
Bah écoutez, peut-être qu'on vous retrouvera sur la route, peut-être pas loin de Cotonou la prochaine fois. Merci beaucoup Charlélie Le Canu. On vous retrouve donc le mois prochain avec Édouard Delbande et avec un nouveau libraire indépendant. Et n'oubliez pas d'acheter vos livres chez les libraires indépendants. Chaque mois, nous vous proposons un voyage culturel et musical avec cette partie centrale entièrement dédiée au son du monde grand format. Bonjour Jacques Lamalle.
Bonjour.
Soyez le bienvenu dans cette émission. Vous
Merci.
Êtes journaliste et écrivain. Vous avez travaillé très longtemps pour le Canard Enchaîné en France.
Eh oui.
30 ans, 40 ans.
Le Canard Enchaîné a 100 ans cette année, oui. J'y ai passé 37 ans seulement.
Un tiers.
Mais je suis parti quand même avant.
Alors vous publiez un beau livre de photographies sur l'Afrique noire des explorateurs. 250 photographies jamais publiées, prises entre 1880 et 1910, qui sont devenues aujourd'hui de vrais témoignages.
Oui, c'était le but de la recherche. Alors il y en a quand même une vingtaine qui ont déjà été publiées, mais pas dans cette qualité de reproduction.
Alors il faut savoir qu'à l'époque, le matériel photo est très lourd, l'instantané est au balbutiement, on a besoin de temps de pause, très important, et figer un mouvement, c'est très compliqué, c'est même presque impossible. Vous avez dû trier beaucoup de photos, je suppose.
J'ai trié, je sais pas, plus de 100 000 photos
ah
entre
oui,
les différentes institutions. Ce qui fait la qualité, je pense, du livre, c'est justement ces tirages imprimés, là, mais qui ont une intensité et qui montrent justement toute la curiosité, l'émotion dont étaient chargés les photographes au moment où ils prenaient
ces
photos.
C'est-à-dire qu'on découvre des scènes de la vie courante, des rassemblements, des portraits. Il y a des photographies, il y en a une en particulier. Je pense à celle prise au bord de l'Ogoué, avec des barques de pêcheurs. On est au bord de la mer avec les rouleaux comme ça de l'océan. Et on pourrait croire que cette photo a été prise hier.
Absolument.
Et alors que c'est en 1880 qu'a été prise.
Ouais. Et j'ai un autre exemple. Le photographe brésilien Sadalgo a fait un livre de photos sur l'Afrique. Il y a notamment une photo d'une pêcherie au bord du Congo, dans les rapides du Congo. Et il y en a une dans ce livre que j'ai pris. C'est pas au même endroit. Lui, c'est à l'est, moi, c'est à l'ouest du Congo, vers les chutes. Et c'est la même photo.
C'est quasiment la même.
Ouais. Quasiment la même. Et je dirais même que la photo qui a été prise avec des plaques de verre, avec de la pose et autres. Et la photo de Sadalgo étant numérique. Et je pense que celle-ci, celle qui est dans le livre, est bien supérieure.
Et meilleure, hein, carrément.
Carrément, mais faut le dire.
Ces explorateurs, Jacques Lamalle, ils vont ouvrir la porte à la colonisation. Ils
réalisent, on est assez
mal à l'aise finalement, hein, en regardant parfois ces photos, parce que même si vous dites qu'ils réalisent que leurs explorations causent des dommages, l'exploitation de l'ivoire par exemple, qui a généré des milliers de morts, il y a quand même cette voie ouverte avec des personnages importants, le colon sans état d'âme, le belge Charles Lemaire, qui est très violent, qui ne négocie pas, et voilà, et qui assiste à certaines scènes, mais c'est vrai que
Avec lui, on va pas dire grâce à lui, du côté de la Belgique, mais aussi de notre côté, on n'a pas eu que détendre. Mais ce que j'ai essayé de montrer, c'est ce que les premiers explorateurs, que ce soit des missions scientifiques, que ce soit des missions de tracé de frontières, il y a peu de missions militaires avec des photographes, ou tout au moins j'ai refusé ces photographies-là.
Il y a celle quand même d'Auguste Vein.
Ah, alors ça, l'Auguste Vein, ça c'est une photo absolument extraordinaire.
Un photographe militaire, hein.
Oui, c'est un photographe militaire, c'est la mission Lemaire, mais ça se passe au Congo.
Attendez, photographie extraordinaire, c'est un homme décharné, en fait, qui est mort.
Ah, c'est un cadavre. Hein.
Un cadavre, voilà, qui a été trouvé justement par Charles Lemaire et qui a été photographié par ce fameux photographe Auguste Vein.
Et ce qu'il y a de fantastique, d'ailleurs, justement, dans la recherche, c'est que j'ai découvert cette photo au Musée Royal d'Afrique Centrale à Tervuren, en Belgique. J'ai montré ces photos à un historien anthropologue qui travaille au musée et qui m'a rappelé en me disant « Mais cette photo, moi j'ai le texte. » J'ai découvert le texte de la description de la photo par la mission Charles Lemaire où à un moment donné, le photographe, qui sont là autour du cadavre, à un moment donné, le photographe dit « Ne bougeons plus !» Vous voyez le sens de l'humour à ce moment-là.
Ouais. Bref.
Mais l'essentiel. Non, mais l'essentiel du livre, c'est de nous montrer l'Afrique. C'est entrer dans l'Afrique profonde.
Ouais.
Donc, j'ai fait ce parcours, des paysages, des rencontres, des gens, et à la fin, j'ai fait un chapitre, l'œuvre au noir, sur le portage, parce qu'il y a eu énormément de morts. Il fallait des centaines d'hommes, et même parfois des milliers, et il y a eu des conséquences dramatiques.
Merci beaucoup Jacques Lamalle. Mémoire noire, donc ce livre, hein, L'Afrique noire des explorateurs 1880-1910, est paru aux éditions Les Arènes. Dans cette plus grande librairie du monde, on part tout de suite au Québec avec Billy Robinson, qui est dans le rayon des polars. Coup de gueule ou coup de cœur, Billy?
Alors, un gros coup de cœur parce que après la chaleur de l'Afrique, moi, je vous amène dans le froid de l'hiver québécois. Alors, mon gros coup de cœur va cette semaine au nouveau roman de Christian Gay-Poliquin, Le poids de la neige. Alors, grand conteur, ce jeune romancier au talent remarquable, là, l'auteur du Fil des kilomètres qui est paru en Europe chez Phébus et au Québec à la Peuplade, nous surprend encore une fois avec un deuxième roman noir d'une qualité littéraire surprenante à l'intrigue lente, sournoise, comme un puissant vent froid d'hiver.
Vous nous préparez pour l'hiver avec ce livre, hein, c'est ça?
Voilà.
Le poids de la neige aux éditions La Peuplade. Merci Billy pour la catégorie des biographies en cours en Belgique. Déborah Damblon.
Et voilà, et moi j'ai un joli grand coup de cœur pour une biographie, et en plus une biographie qui n'en est pas une, comme la pipe de Magritte n'est pas une pipe. Alors ça s'appelle Magritte, ceci n'est pas une biographie, c'est Campiezabus, c'est au Lombard, et vraiment c'est une réussite qui donne plus à voir l'âme du peintre que sa vie, et c'est un vrai bonheur.
Très bien, Magritte, ceci n'est pas une biographie au Lombard, merci Déborah. La librairie francophone avec Lolita Séchant, Jacques Lamalle et donc Serge Joncourt, Repose-toi sur moi. C'est le titre de votre nouveau roman, Serge. C'est tout simplement une histoire d'amour. Se reposer sur l'autre, c'est possible jusqu'où? Quelle est la limite?
Oh là, c'est un peu peut-être le propos du livre, je ne sais pas.
C'est vrai un peu, oui.
Non, mais à tout le moins, c'est une formule agréable à entendre, quoi.
Repose-toi sur moi?
Oui.
Ouais. Ça vous rassure, vous, ça?
Ah oui. C'est agréable aussi, possiblement, à émettre, enfin à dire à l'autre, ouais. Repose-toi sur moi.
On poursuit cette conversation après le nouveau titre du groupe Mickey 3D, C'est beau la vie, et c'est dans la librairie francophone.
Regarde un peu les survivants, ils ont des larmes au fond des dents, ils voudraient changer d'autoroute. Mais c'est pas comme ça qu'on s'y prend. Ne fais plus confiance à personne, c'est la devise des naufragés. Y'a toujours un con qui klaxonne pour qu'on continue d'avancer. C'est beau la vie quand on y pense, un peu moins quand on la dépense. S'énerver toute la journée, on finit par tout oublier. N'ayons plus peur de l'essentiel, n'oublions pas d'être fidèles à ceux qui nous montrent le ciel pour voler nos âmes. Regarde un peu vers l'horizon, c'est la nouvelle génération qui n'a pas connu l'oppression, mais lève le bras pour la nation. Regarde un peu la gueule des morts, on dirait Pépé qui s'endort. Après les prochaines élections, faudra peut-être s'enfuir en avion. À Tokyo, je prendrai sûrement quelques photos. Mais si tu m'emmènes à Pyongyang, j'ai bien peur d'avaler ma langue. Si tu m'emmènes à Hollywood, j'irai moonwalker dans la foule. Mais si tu m'emmènes à Cuba, j'irai danser le cha-cha-cha. C'est beau la vie quand on y pense, un peu moins quand on la dépense, à s'énerver toute la journée, on finit par tout oublier. N'ayons plus peur de l'essentiel, n'oublions pas d'être fidèles à ceux qui nous montrent le ciel pour voler nos âmes. Et si tu m'emmènes à Tokyo, je prendrai sûrement quelques photos. Mais si tu m'emmènes à Pyongyang, j'ai bien peur d'avaler ma langue. Si tu m'emmènes à Hollywood, j'irai moonwalker dans la foule.
Mickey 3D avec C'est beau la vie sur ICI Radio-Canada Première, RTBF la première de la RTS et sur France Inter.
La librairie francophone, Emmanuel Queyrade.
Serge Joncourt est dans la librairie francophone cette semaine pour Repose-toi sur moi, paru aux éditions Flammarion. Ludovic est un homme solide au milieu de la quarantaine. Il travaille pour une agence de recouvrement de dettes chez les particuliers. Il vient de la campagne dans le sud-ouest de la France, mais il vit à Paris. Paris le perturbe, Paris l'exclut, le ronge. Pour lui, la vie est dure et solitaire dans la capitale. Il est sur le fil, il peut basculer à tout moment, Serge.
En tout cas, il n'est pas complètement à l'aise. Parce que il y a des tas de choses à Paris dont on ne se rend plus compte, mais le fait de marcher, je le fais un peu découvrir ça, parce que je l'observe. Moi, chez mes proches, j'ai une famille qui est plutôt en milieu rural. Mes parents sont dans un bled de 15 habitants. Bon, et quand on vient à Paris, il y a une forme de simplement évoluer comme ça sur les couloirs dans les couloirs de métro. On est dans une forme d'évitement permanent. C'est-à-dire, inconsciemment, on replie son épaule quand on voit quelqu'un arriver en face. Enfin, il y a tout un calcul comme ça.
Alors ça, c'est le principe des grandes villes, des capitales. Et il y a Aurore, un autre personnage qui est styliste. Elle a sa propre marque de vêtements. Elle est au bord de la faillite, malheureusement. Mais elle est mariée avec un homme ambitieux. Ils ont deux enfants. Elle vit très confortablement. Et Paris, elle, cette grande ville, ça la rassure. Tout les oppose, en fait, ces deux-là. Mais ils vont arriver à se trouver.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est les rencontres, oui, observer les rencontres. Même chez les autres, j'aime bien que les gens me racontent comment ils se sont rencontrés, parce que ce sont deux vies qui sont totalement, le plus souvent, qui n'ont rien à voir. Et puis, à un moment, paf, chacun va se réorienter en fonction de l'histoire de l'autre, de son vécu. C'est une sorte de micro-événement qu'on rencontre tous, enfin, j'espère, en tout cas.
Oui.
Et qui nous détermine, nous redétermine d'une certaine façon, nous reconfigure, enfin. C'est pas rien une rencontre. Donc, elle est un peu horreur emblématique de ce Paris, Paris capitale de la mode, mondiale de la mode quand même.
Ouais.
Et ça me permet de parler de ce métier-là, de ses préoccupations à elle, qui veut justement continuer à fabriquer en France, parce que c'est une forme d'éthique. Elle veut pas que ses vêtements soient, quels qu'on soit, soient fabriqués par des gamines à Shenzhen ou au Bangladesh de 16 ans, c'est pas possible.
Ou au Vietnam.
Ou au Vietnam, évidemment. Mmh. Et on est tous environnés, concernés par l'actualité au sens large, d'une façon permanente, réactualisée toutes les heures. On sait parfaitement ce qui passe dans tous les endroits du monde, mais parfois on oublie un peu de regarder les micro-catastrophes.
Oui, c'est ça.
Je ne sais pas, quelqu'un qui vous parle et qui vous dit, après 30 euros d'impayé, il est interdit de chéquier, il est interdit de Banque de France. Enfin bon, c'est un micro-drame, ça, quand même. Quoi.
C'est un micro-drame qui génère des catastrophes terribles.
Et c'est une catastrophe.
Dans la vie des autres.
Ce sont des micro-catastrophes.
On va écouter la BO du roman, Serge Joncourt. On vous a demandé quelle musique illustrerait le mieux votre livre. La bande originale de votre livre, quoi. Vous avez choisi Nino Ferrer, Le Sud. Mais pourquoi vous grimacez? Non, c'est ça?
Oui, parce que pour moi, c'est assez emblématique du Lot, que c'est une région...
vous allez expliquer, on va écouter un extrait et vous nous expliquez.
Il y a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse. Il y a plein de chiens. Il y a même un chat, une tortue, des poissons rouges. Il ne manque rien. Le sud, le temps dure longtemps, et la vie surprend plus d'un million d'années. Et toujours en été.
Serge Jeancourt qui ferme les yeux avec Nino Ferrer. Pourquoi ce titre alors ?
Oui, ben, Nino Ferrer, c'est une sorte de figure un peu du Lot comme ça.
Ouais. Parce que votre personnage a sa vie en partie dans le Lot, sa famille dans le Lot.
Oui, c'est ça. Lui a fait quasiment toute sa vie dans le Lot. Il est monté à Paris à l'âge de 45 ans, quelque chose comme ça. Oui, donc, le Lot, c'est un, ben, je ne sais pas, c'est un département qui. Que j'aime profondément.
Qui vous émeut un peu, j'ai l'impression.
Oui, c'est une forme de territoire. J'y ai de la famille, des gens que j'aime aussi, que je ne vois pas beaucoup.
Comme Ludovic.
Il y a une forme de... Oui, tout à fait. Et le Lot, il y a quelque chose d'un peu paisible, lumineux, un peu à part, hors des schémas de TGV. Et il y a quelque chose d'un peu préservé, d'authentique là-bas. Je pense pas trop le mythifier, je crois que c'était un peu comme ça quand même.
Ludovic ne croit plus en l'amour, il le ressent, il dit ne plus être capable d'aimer. Plus jamais il ne prendrait ce risque. C'est ce que vous écrivez, Serge Jeancourt. C'est quoi le risque ?
Le risque, c'est de s'en remettre à une autre, à un autre, de faire ce pacte fou, de considérer que la vie, ça se fait maintenant à deux. Moi, je suis toujours ému par les couples quand je les vois dans la rue. Parfois, même des gens âgés qui traversent ensemble ou qui sont au café, qui ont l'air heureux, ou des jeunes couples qui... Il y a quelque chose là qui, à chaque fois, me touche profondément. L'amour, c'est une forme de pacte à deux contre le monde. Et c'est miraculeux, c'est merveilleux. En même temps, c'est fragile. Parce que, donc ça, il n'a plus envie de prendre ce risque-là, de s'offrir. En tout cas.
Même si ce manque d'amour était comme un gouffre en lui, c'était comme un lac qui se serait vidé par le fond. Et toute cette force vitale qu'on trouve à s'aimer, à désirer, à embrasser l'autre, à y penser, il savait bien que maintenant, il faudrait faire sans. On va aller voir vous m'avez ému, Serge. On va aller voir du côté de nos libraires ce qu'ils ont pensé de votre livre. Au Canada, il y a Billy Robinson.
Mais écoutez, moi aussi, là, je suis ému. Alors, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Un roman écrit tout en finesse, en justesse, dans les mots choisis. C'est aussi un roman sur la confiance qui, tranquillement, peut s'installer là, entre deux personnes. Serge Jeancourt, vous arrivez à nous le faire sentir d'une façon subtile et magnifique, et surtout de réellement très beau. Alors, on en redemande encore et on referme ce livre avec le sentiment là, vraiment... d'avoir lu quelque chose de bouleversant qui nous accompagnera très, très longtemps.
Anne-Françoise Corr, en Suisse, êtes-vous d'accord ?
Ah, complètement. J'ai aussi beaucoup, beaucoup aimé ce roman que j'ai d'ailleurs dévoré en deux nuits, grâce aux insomnies, un petit peu, je dois avouer.
Oui, 450 pages, il faut deux nuits quand même.
J'ai cru à la rencontre, puis à la passion a priori improbable entre Ludovic et Aurore, et j'ai ressenti le poids de leur vie et de leur solitude respective. J'ai trouvé que ces paysages urbains ou ruraux donnent une présence et une vibration supplémentaire au récit, et j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce roman.
Serge a l'air... Il est très concentré, Serge Jeancourt. Hein, vous êtes presque bizarre, Serge. On va voir du côté de la Belgique.
Je suis touché.
Bien sûr, je comprends. Déborah à Belgique. Déborah Damblon, vous êtes subjuguée. On est tous un petit peu bizarres aujourd'hui. Allez-y, Déborah.
Voilà. Eh bien oui, moi je trouve que vous avez un talent fou, monsieur Jeancourt. Et je suis, comme dit Emmanuel, je suis subjuguée par la façon... En fait, précisément, comme vous trouvez toujours le mot juste, le mot tout à fait parfait pour poser votre ambiance et puis pour faire vraiment vivre vos personnages. Et vous m'avez passionné d'un bout à l'autre de ce livre. Et c'est sidérant parce que quand même, Emmanuel le disait, ça en fait des pages. Hein, et c'est pas un récit à suspense et je l'ai pas lâché. J'ai adoré.
C'est vrai que c'est un roman touffu. C'est long, très long même. On suit la construction de cette relation amoureuse pas à pas. C'est introspectif et du coup, vous savez quoi, Serge Jeancourt, c'est ça qui marche. C'est que ça nous renvoie à notre situation personnelle. On réfléchit sur soi. C'est intentionnel de votre part. Il est très ému, Serge Jeancourt, de braquer le miroir sur le lecteur.
Oui, je crois que j'ai toujours lu un peu pour apprendre sur moi, je crois. Et peut-être qu'écrire, c'est aussi faire passer des choses qu'on a compris de soi.
Vous pensez qu'en si peu de temps, finalement, dans cette histoire avec ces personnages qui s'aiment très vite, vous pensez qu'on peut aider et aimer l'autre avec autant de naturel, avec autant d'intensité, si vite ?
Aider, oui, à coup sûr, ça, on peut aider à tout moment. C'est vraiment... c'est tellement simple que c'en est presque décourageant, et parfois on n'y pense pas. Quoi. Comme ce que je disais, se montrer rassurant, ça peut être une sorte de parti pris, de principe. Par rapport à d'autres qui sont, je ne sais pas, des difficultés, on en a toutes sortes. Quoi. Simplement prendre ce parti-là et puis d'être à peu près disponible. Et en même temps, de s'offrir un peu à l'autre, c'est un peu s'oublier soi parce qu'on est bien souvent ramené à soi. Quoi. Donc j'avais envie de faire le portrait de solitude, d'une certaine façon, parce qu'ils sont seuls, mais d'une façon différente. Aurore est seule en étant très entourée. Dans son mari n'a pas de problème, il gagne de l'argent, ses enfants sont là.
Mais ça ne suffit pas.
Mais ça ne suffit pas. Il y a un moment, elle n'a plus d'écoute, quoi. La complicité, elle est avant tout dans l'écoute. On peut voir beaucoup de monde, rencontrer beaucoup de monde. Il y a un moment, on sent quelqu'un qui nous écoute vraiment. Et ça, c'est quand même un peu étonnant, quoi. C'est ce qui se passe pour elle, ouais.
C'est une façon de résister à la vie, ça, la relation amoureuse, alors. C'est ça, votre démonstration. Toute simple, a priori, mais finalement très compliquée à mettre en œuvre.
Quand on est romancier, on a vraiment toute l'attitude devant soi, on peut tout faire. C'est que le roman graphique, il m'a émerveillé aussi, le roman graphique
de Lolita Séchard.
Parce que d'un seul coup, elle prend une page.
Lolita. Vous faites pleurer tout le plateau, là. Je sais pas si on va finir l'émission, hein, Serge. Envoyez un disque.
Non, mais il y a même de la musique dans un roman graphique.
Oui, c'est vrai.
Il suffit de mettre des notes, puis on l'entend. C'est quand même bouleversant, ça. Nous, on peut pas le faire dans le roman. On n'a pas les mêmes armes, quoi.
Bon, le mot de la fin, c'est pour un libraire. Mathieu Colomb qui va nous soulager.
Oui, comptez sur moi.
À vous l'honneur cette semaine, Mathieu.
Alors, qu'est-ce qu'on va en dire de ce roman? Déjà, alors, il y a une très belle écriture. C'est ça qu'il faut voir. Ça fait 400 pages. C'est très long. Il y a une écriture qui est tellement fluide qu'en fait, on se fait intégralement porter par cette écriture. Et on prend énormément de plaisir à suivre l'évolution des personnages parce que chacun des deux personnages principaux subit une transformation, en fait, tout le long de ce roman. Et ensuite, il faut bien l'avouer que voir une passion amoureuse complètement impossible et désespérée, ça fait pas de mal de temps en temps, quand même. C'est même un des points forts du livre, c'est que justement il y a cette touche de désespoir qui est tout le temps présente, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui va arriver, mais par contre on est sûr que ça peut être pire. Voilà. Et ça donne quand même du sel à l'histoire, encore plus que la dimension adultérine de cette relation. C'est vraiment tout le sel, c'est ce désespoir.
C'est du vécu, chez Mathieu Colomb. Vous avez séduit nos quatre libraires, Serge Lancour également. Vous êtes content? Vous êtes heureux?
Ah oui.
Bon, c'est la pagaille, la relation amoureuse, c'est vrai.
C'est en même temps, c'est une sorte de paix au milieu du tumulte, c'est les deux. Quoi.
Merci beaucoup Serge Lancour, c'était la première fois pour vous dans la librairie francophone.
Absolument.
On a mis du temps, mais on y a mis la qualité j'espère. On a été ravis de vous accueillir, merci infiniment. Repose-toi sur moi est paru aux éditions Flammarion. Et comme le disait sur une note d'humour Michel Galabru dans cette émission...
Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce bordel?
La librairie francophone, Emmanuel Guérad.
Avant de conclure, coup de pouce à une découverte musicale francophone. Voici la Française Cléa Vincent avec un extrait de son premier album.
Retiens mon désir, ne laisse pas s'enfuir, ne laisse pas partir dans les vagues de la vie, dans les vagues de la vie. Terre. Je serai le vent et tu serais la terre. On pourrait marcher dans l'avenir, changer la couleur de tes souvenirs. Retiens mon
Cléa Vincent, Retiens mon désir, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Toutes les infos sur l'émission, c'est sur le site internet de notre émission. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. Au revoir Serge Goncourt, à bientôt. Lolita Séchand, Jacques Lamalle, merci beaucoup.
Merci.
À la réalisation, Céline Hila avec Ludovic Asselot. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère et Marie-Louise Beau en France. Martine Béguin-Felet avec Annick Chouin en Suisse. René Mikils avec Valérie Lepute en Belgique. Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. Merci pour votre fidélité. La semaine prochaine, il sera notamment question de l'art et de la révolte d'Albert Camus avec le chanteur Abd al-Malik. Très bonne semaine à vous, à bientôt, salut.